La femme de Yehuda, la première femme de Yehuda, la première tentative, c'est donc la fille d'un homme cananéen. Et voilà ce que dit, tout de suite je vous explique, vous verrez d'après le Targum et d'autres midrashim qui insistent sur cette dimension bien précise, que bien sûr il s'agit de cananéens, mais le cananéen déjà transfiguré. Ishkanan. Mais là je vais prendre une autre dimension des midrashim pour compléter cette identification. Il est au midrash 19, il est tête. Vayar Sham Yehuda, c'est la citation du verset. Et là-bas, Yehuda a vu la fille d'un homme cananéen avec qui cette entreprise était possible. Kivan Shenatla, lorsqu'il l'a prise comme femme, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, Hamelech HaMashiach a-t-il la mode de Yehuda? Le roi Messie doit venir de Juda. Ve'alach Venatal Isha Kanaanit, et il est allé prendre une femme cananéenne. Et là, Mani aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Mais bien, l'autre, je vais faire venir des malheurs. Ou ma sille, no et tama. Et, non, à l'autre, ici, ce n'est pas des malheurs. Oui. Des, comment on dit? Des événements. Oui, des. Mais bien, à l'autre. Ou ma sille, no et tama. Et finalement, il mariera à son fils Tamar. Tamar qui était en réserve. Tamar qui était encore cette souche indifférenciée. Le Midrash dira la fille de Shem qui est lui-même fils de Noah, le repoint de départ, vraiment l'antérieur, non altéré. Vetamar aïta bito shel Shem Agadol. Et Tamar était la fille du grand Shem, l'ancêtre. Amar Akadosh Baruch Hu, Tamut Kenaani. Alors Dieu dit la Kenaani mourra, Sheneema vatamut bat Shuar, comme il est écrit, et la fille de Shuar est morte, et Shet Yehuda, la femme de Yehuda. Yamutu Banea, et ses fils mourront, chez Nehema, ainsi qu'il est dit, Vayamot Er et Onan, étant Er que Onan mourut, parce qu'ils n'ont pas osé continuer les engendrements, Kede Sheidbak Yehuda Betamar, afin que Yehuda s'attache à Tamar, Shei Kohenet, qui était prêtre. Kohenet, fille de prêtre. Bito Shel Shem Ben Noar, fille de Shem, fils de Noar, chez Nehema, Malkit Tzedek Melech Shalem. C'est-à-dire, elle était la fille de Melkit Tzedek. Tamar. C'est-à-dire, nous voyons qu'il y a cette tentative de Yehuda est à deux niveaux. D'abord, ce qu'il fallait faire, essayer avec une cananéenne, transfigurée, mais une cananéenne. Et puis voilà qu'il y a eu échec, et alors il se dévoile que ce n'était qu'une première approximation, et qu'en réalité, le courage de Yehuda devait le mener jusqu'à Tamar, et pas seulement jusqu'à la cananéenne. Alors, entre-temps, voilà ce qui est arrivé. Eh bien, cette Tamar, qui n'est pas n'importe qui, comme nous le voyons, est mariée avec les enfants de Yehuda. Et le Melech HaMashiach aurait pu descendre de Yehuda par ses enfants. Mais puisque les enfants de Yehuda, eux-mêmes, n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont les fils de leur mère, alors ils mourront. Et en fin de compte, c'est Yehuda lui-même qui engendra le Mashiach lointainement, à partir de Tamar. Je voudrais simplement vous décrire. Donc le problème de Tamar, nous n'aurons plus le temps de voir dans le texte en détail, mais vous avez les textes, c'est ceci, c'est que lorsque Tamar décide d'obliger Yehuda à la prendre pour femme, elle se déguise en prostituée, et le jour où Yehuda sort de son deuil très rapidement et va chez son ami à la fête de la tonte des moutons, elle se met devant la source. Et puis Yehuda passe et lui propose d'aller avec lui. Alors elle lui demande un gage. Il lui demande un prix. Le prix de cela serait un chevreau. C'est déjà une allusion au sacrifice de Pessah, de Hadgadia. Et puis, vous avez entendu parler de... Enfin, vous savez ce que c'est, Hadgadia. Eh bien, Yehuda n'a pas de chevreau sous la main. Il aurait pu envoyer n'importe quel commissionnaire en chercher un. Il dit, non, voilà, je vais te laisser un gage. Et il lui donne comme gage son sceau et son sceptre. Oui. Et c'est-à-dire les insignes de la royauté messianique. Alors, oui, tout de suite, on est averti que ce qui se passe là est beaucoup plus profond que ce que nous faisons semblant de lire habituellement. C'est clair. Il lui donne comme gage quoi ? Les insignes de la royauté messianique. Et il lui laisse là en gage. Et puis le temps passe, on vient dire à Yehuda, tu sais, ta belle-fille qui était veuve, attendant de se marier avec ton troisième fils, cela que Yehuda ne voulait pas lui donner, parce que là il y aurait eu blocage définitif, s'est prostituée et elle est enceinte. Alors il cite la loi tout de suite, Hotsiouha Betisarev, qu'on la mette à mort. Et alors la scène est préparée, et au moment où on va la mettre à mort, elle dit, voilà de qui je suis enceinte, et elle sort les gages que Yehuda lui avait laissés. Alors Yehuda dit, cette phrase célèbre, j'allais dire, tzadeka mimeni, ki alken lonetatiha leshla beni. Je vous donne la première traduction, la traduction habituelle. Tzadeka mimeni, ça veut dire, elle est plus juste que moi, tzadeka mimeni, elle est plus tzadeket que moi, mimeni, ki alken, puisque je ne l'ai pas donnée comme femme à mon troisième enfant. Vous vous rappelez de la loi du Lévira que j'ai citée hier? Et voilà, puis tout s'arrange. Quoi, tout s'arrange? Non seulement on ne la punit pas, mais on ne le punit pas, et on fait une grande fête, le Mashiach pénètre. Vous voyez qu'il se passe autre chose. Est-ce que c'est clair? Et alors, ce n'est pas parce que Yehuda était fautif qu'il ne s'est pas passé ce qui est très grave, znout d'une Kohenet, c'est-à-dire une fille de Kohen, s'étant livrée à la prostitution, et avec qui? Avec son propre beau-père. Tout le monde aurait dû être puni. Et voilà, il suffit de dire Tzadeka Mimeni, et puis tout s'arrange. Vous voyez donc qu'il a quelque chose derrière. Entre-temps, d'ailleurs, quand Judas était revenu chez lui et avait envoyé par son ami un chevreau pour retrouver ses gages, alors le verset dit très clairement, on est revenu chez Judas pour dire, mais il n'y a jamais eu de prostituée là-bas, on n'a jamais trouvé de prostituée. Alors Judas dit, eh bien, qu'elle garde les gages. Et il attend. Au bout de 9 mois, il se dévoile qu'effectivement, alors, je reprends le même verset dans une deuxième lecture. Tzadeka mimeni, elle est devenue tzadik mimeni par moi, qui alken, et c'est pour cela, l'onetatia l'ishlaveni, que je ne l'ai pas donné à Shela, mon fils. C'est-à-dire, elle a réussi par moi, c'est par moi, mimeni tzadeka, et non pas plus que moi. Et vous savez très bien qu'en hébreu, les deux lectures sont possibles. La première n'est pas fausse. Mais abordons la deuxième. Tzadeka mimeni, elle est plus juste que moi. Donc ça mène à une impasse dans le raisonnement. Mais la deuxième lecture, tzadeka mimeni, ki alken lonetatia. Et c'est pour cela que je ne l'ai pas donné. Ça veut dire que je savais très bien que c'était moi qui devais le faire. Ça y est, c'est clair? Et en fait, il n'y a finalement plus de mystère, puisque Tamar, c'est le nom du tzadik. Vous connaissez le verset des psaumes, tzadik, katamar, ifrah. C'est-à-dire qu'il y a là, caché dans le pays de Canaan, une souche qui est Tamar, et c'est donc avec elle que va se produire l'effort de l'engendrement de l'identité Yehuda, première approximation, la fille de Batshua, la cananéenne, mais cela mène à 3 impasses, deuxième tentative, mais cela réussira, mais elle réussit parce que Tamar en a pris l'initiative. Vous retrouverez d'ailleurs dans la fin du livre de Ruth une allusion à cela. Lorsque Noémie reçoit la bénédiction après à la naissance, je n'ai pas le Tanakh ici, mais je vais vous dire où est la référence, à la fin, le dernier chapitre du livre de Ruth, à la naissance du fils de Boaz et de Ruth, c'est Oved. Okay, la bénédiction que Naomi reçoit, c'est que cette jeune femme, Ruth, soit bénie comme Rachel et Léa qui ensemble ont construit la maison d'Israël et comme l'enfant que Tamar a donné à Juda. Et qu'est-ce que Tamar et Juda viennent faire ici, hein? Mais c'est précisément pour nous montrer cette analogie. Plus que cela, le commencement du geste de Ruth prenant l'initiative de donner un enfant à Boaz et de sauver l'humanité à travers le salut d'Israël, à travers la naissance de David, de la même manière tout ceci avait commencé avec Tamar et Yehuda. Et c'est pourquoi le texte relie ces deux épisodes. C'est un descendant de Yehuda. Alors vous verrez d'ailleurs, il descend d'ailleurs de Peretz, qui était le fils de Tamar et de Yehuda. Et vous avez donc là, si vous voulez, la réponse à notre premier volant du problème. C'est-à-dire que en nous appuyant sur ces deux lectures de Rashi que nous avons lues, c'est que ce qui se passe là n'est pas du tout une histoire, bon, je pense que déjà depuis hier soir vous le présentez, n'est pas du tout une petite historiette de péripéties de l'histoire événementielle. Il s'agit de l'histoire de l'identité à travers les engendrements et comment cette dimension de la messianité de Yehuda cherche à bousculer toutes les difficultés de la continuation des Toladot. Après les enfants de Jacob, tout devrait s'arrêter. Et l'histoire d'une civilisation hébraïque pour elle-même commençait avec, sur le modèle, Ishmaël de son côté, Esav de l'autre, bien Israël du sien, pas du tout ça. Tout de suite, tout est bousculé par Judas de sa part et par Yosef de l'autre. Il faut continuer et c'est là que tous les obstacles apparaissent. Avec qui? Avec qui comme partenaire? Et alors la tentative Yehuda, c'est de chercher ce partenaire de l'avenir dans l'antérieur. Demain, nous serons occupés avec le problème Joseph de le chercher dans l'extérieur. Mais nous savons déjà que la tentative de Joseph, quel que soit son objet, échoue. C'est celle de Yehuda qui réussit. Bien. Oui. Bien, vous avez la parole. 5 minutes. Oui.
Est-ce qu'il savait déjà la réussite immédiate avec Tamar?
Il savait probablement pas si un enfant allait naître, mais il savait ce
qu'il faisait. Mais parallèlement à cette tentative de Yehuda, est-ce que les frères de Yehuda essayaient d'en faire autant, sauf qu'ils ont échoué? Et ma première question, c'est...
La continuation des Toladot ne concerne que Yehuda et Yosef. Les autres frères, c'est Israël. C'est pas par les autres frères que l'effort d'engendrement du Mashiach passe. C'est par Yosef pour Mashiach ben Yosef, par Yehuda pour Mashiach ben Yosef. Pour les autres frères, il n'y a pas de problème. Ils veulent se marier, c'est un très bel pas, mais avoir de beaux enfants. C'est ce qui arrivera d'ailleurs à Shla lui-même. Shla, le troisième fils de Yehuda, à qui son père n'a pas donné Tamar, va avoir une multitude d'enfants. Mais c'est pas mal que ça passe. La Tolada, la Rolada. Vous voyez la différence?
Est-ce que Lot, qui était la plus grande approximation d'Abraham, est-ce qu'il, puisqu'il savait qu'il ne pouvait pas être Abraham, est-ce qu'il a pu tenter de faire réussir, est-ce qu'il savait déjà en faisant, de faire réussir une histoire par le mal, par le...
Non, il y a quelque chose qui est un point important, c'est que l'autre n'est plus rien dans cette histoire, ses filles ont une idée. L'initiative vient toujours des femmes dans ce problème. Ce sont les filles de l'autre. Oui.
Vous disiez que la stratégie Joseph finalement échoue, comment comprendre alors que c'est Yehoshua, qui est de la tribu d'Éphraïm, je crois, a fait entrer le peuple dans la terre?
Mais la stratégie de Joseph, avec la femme de Potiphar, échoue. Mais elle va réussir à travers Asnath. Mais la première tentation de Joseph, c'est les deux jours de la fois d'ailleurs à ce moment-là, c'était la femme de Potiphar, c'était pas du tout Asnath. Il se dévoile que Asnat n'est pas une femme de l'extérieur, c'est une femme d'Israël en exil. Ça, nous l'avons dans les aïeux. Voilà. Mais la femme de Joseph Capitel, c'était l'Égypte. Je dirais un peu en anticipation. Joseph a mis l'identité hébraïque au service de l'Égypte, à titre de l'Égypte. C'est ce que ses frères lui reprochent. C'est pourquoi il y aura le procès du jour. Et pour ça, il a condamné.
Vous avez présenté hier le troisième fils de Judas comme quasiment impuissant. Bon, il a eu une multitude de...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est impuissant pour notre problème. de la mutation de l'entité. Enfin, de la puissance de faire des gosses, ça c'est un autre problème.
On pourrait aussi essayer de l'expliquer en cohérence en disant justement
le mérite de Yehuda d'avoir pris ce qu'un Amalchel n'aurait pas voulu prendre. Dans l'optique, vous disiez tout à l'heure, que pour engendrer le Messie, il faut prendre ce qu'il y a de plus bas. Mais le Midrash 21, qui montre que ça ne serait jamais arrivé si, qui est très bref, donc Ematai, Shach, Korach, Megara, Tenema, semble bien montrer que dans une certaine lecture, en tout cas, ça ne serait jamais arrivé, jamais on ne peut supposer que Yehuda aurait fait une tentative avec les Cananéens s'il n'est pas séparé de ses frères. On retrouve cette ambiguïté également dans le comportement de Yehuda vis-à-vis de Tamar. Lorsque tu faisais allusion en disant « Yehuda sait bien ce qu'il fait », il y a un midrash qui est cité d'ailleurs plus loin dans le passage des mains, je crois, qui dit « Lorsqu'il est approché de Tamar, eh bien, il n'a pas voulu, il s'est éloigné d'elle. Et puis, c'est Dieu qui lui a insufflé un désir pour qu'il s'approche d'elle. » À côté de ça, les midrashim ensuite interprètent le dialogue avec Tamar. Il restitue le dialogue à partir du fait qu'elle s'est couverte la tête avec un voile pour montrer qu'il l'a questionné pour savoir s'il était cachère, pour savoir s'il avait le droit d'avoir des rapports avec, etc. Donc toujours cette ambiguïté foncière. Or finalement, cette ambiguïté se trouve, je crois, d'ailleurs, déjà indiquée par un verset même du texte. C'est la fin du verset 26, que j'ai cité tout à l'heure, du chapitre 38, que j'ai cité tout à l'heure, lorsque finalement, lorsque Yehuda reconnaît qui est Tamar et qui dit Velo Yossa Ot le Dato. Finalement, donc, il n'a pas, mais je pense, l'inconnasse, dans les suites. Ce Yassaf, ou Yassaf, pour le prononcer en parabe, ce Yassaf peut se traduire, Hachi même le dit déjà, de deux façons vraiment opposées. Soit il n'a plus eu de rapport avec elle, soit il n'a pas cessé de l'avoir. Je crois que cette ambiguïté profonde, cette situation, est déjà indiquée par la fin de ce livre. Et ma question donc, dans laquelle j'essaie de résumer toutes les questions qu'on a pu poser des midrashim, c'est il me semble qu'il y a un décalage entre le dessein de Dieu et la volonté de Yehuda. Il semblerait que dans le dessein de Dieu, il n'aurait pas fallu du tout passer par la Cananéenne. Il semble également, puisque Yehuda a été puni, il mérite d'être à l'origine du Mashiach, mais il a été puni. Donc il y a une ambiguïté entre des événements qui sont la rançon d'une faute, puisqu'on fait le rapport entre la vente de Yosef. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y a deux destins parallèles, mais également qu'il y a faute. D'une part, on nous dit que c'est un tribunal régulier qui a condamné Yosef. D'autre part, on nous dit qu'il a été puni. Tout au long de l'histoire de Yehuda, il y a donc quelque chose de curieux, comme si Yehuda agissait en tant qu'homme coupable et que Dieu essayait de réparer pour que quand même le dessin se réalise.
Bien. Alors, il y avait beaucoup de questions, mais enfin, je crois qu'elles sont résumées dans la dernière, finalement. Voici ce que je proposerai. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments de la réponse dans tout ce que tu as dit. Et de se référer à ce que nous avons vu tout à l'heure dans le Midrash concernant les trois réponses à la question avec qui les enfants de Jacob se sont mariés. Nous avions trois réponses. Je schématise sur les deux principales. Avec leur sœur jumelle, ou bien avec les Cananéens. Et en fait, déjà hier, je l'avais indiqué, je l'ai repris un petit peu ce soir, mais nous allons l'utiliser. Ce que je propose comme principe d'explication est un peu différent. C'est-à-dire, il y a le plan à réussir, ce qu'on pourrait appeler le projet de Dieu, le projet du Créateur, et la manière dont cela se passe dans l'histoire. En fin de compte, c'est la même chose, bien que pendant tout le temps où c'est en cours d'histoire, ce décalage que tu as signalé apparaît. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Par exemple, dans le Midrash de tout à l'heure, le Midrash Rabbah, il s'agit de son Batzouk. Mais en fin de compte, de qui s'agit-il? Dans le commencement de l'histoire et dans l'effort immanent dans l'histoire, ça commence par une tentative approximative, la cananéenne, mais en fin de compte, ça ne peut réussir qu'avec Tamar. Il y avait toutes les péripéties de décalage. Mais le décalage n'est pas entre le projet de Dieu et la mauvaise volonté de Yehuda, il est tout simplement entre le projet du Créateur en général et la manière dont ce projet est atteint à travers toutes les péripéties de l'histoire. Et en fin de compte, au niveau du Midrash lui-même, les deux réponses disent la même chose. Mais incarnées dans l'histoire, elles sont très différentes. L'une montre l'idéal achevé, et l'autre montre comment ça se passe dans l'effort historique. Et dans une Gemara de Psachim, toutes ces questions, où apparemment ce geste historique des patriarches et de leurs enfants se fait dans la faute, est reprise, et vous connaissez la formule, à Omer Reuben Chata Eno Elatoe, à Omer Yehuda Chata Eno Elatoe, à Omer David Chata Eno Elatoe. Ça veut dire que si nous prenions ces récits à notre échelle, dans nos petites histoires individuelles, quotidiennes, banales, alors bien évidemment, on a voulu violer la loi et on se cherche des justifications mystiques, mythiques. Voilà, il y a un grand chapitre du Nefesh Haïm, dans le troisième chapitre du Nefesh Haïm, qui parle de cela. Des petits juifs, nous sommes tous des petits juifs, qui prennent modèle sur l'histoire des patriarches pour faire comme eux. Il dit c'est interdit. Eux faisaient l'histoire, nous faisons nos petites historiettes. Voilà grosso modo la grande différence. Et la Gemara dit, celui qui dit Réhouven a fauté, on nous raconte une toute autre histoire qu'on n'a pas touchée aujourd'hui, Réhouven veut coucher avec la femme de son père. Voilà, c'est une faute énorme. Et la Gemara dit, celui qui croit que Réhouven a fait une faute ne sait pas lire, il ne sait pas de quoi on parle. Voilà. Celui qui dit Yehuda a fauté, il ne sait pas de quoi on parle. David a fauté avec Bethsabée, la femme de Uri, il ne sait pas de quoi on parle. Eno et la Toae, c'est quelqu'un qui est dans l'errance, qui erre, qui Toae, qui se trompe. Voilà, je crois que là nous avons peut-être un principe d'explication assez clair. C'est au fond la même chose, le plan idéal qui nous est proposé et la manière dont ça se passe dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est toutes ces péripéties défigurées. Mais, en fin de compte, il s'agit de ce projet à réaliser. C'est pourquoi j'ai dit souvent, à propos de différentes questions dans l'analyse, que les héros de ces récits savent ce qu'ils font, bien qu'on nous les montre tâtonnés, on nous les montre un peu... aveugle, mais c'est vrai depuis l'origine de l'histoire humaine. Ce n'est qu'à posteriori que nous comprenons qu'est-ce qui était en cours d'effort. Et dans cet effort est en perpétuelle invention de ce qu'il faut faire. Mais on sait très bien de quoi il s'agit. Et voilà ce que je voudrais dire encore dans un autre principe. Nous ne pouvons pas comprendre ces récits si nous prenons le postulat faux qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Yehuda sont des hommes comme nous. Ce sont les hommes qui ont inventer, créer, engendrer l'identité Israël. Nous sommes des tout petits membres de cette échelle, de cette identité collective qui s'appelle Israël. Et c'est pourquoi, bien évidemment, j'en profite pour faire un peu de moussard pratique, il est bien évident qu'on n'a pas le droit de prendre ces récits comme modèle à l'échelle strictement individuelle, bien entendu. Et ça, les grands baralés moussards l'ont interdit. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à entrer profondément de cette sorte de comprendre comment cette approximation, cet échec apparent pendant tout le temps que l'histoire est en cours d'histoire est un effort pour aboutir à cet idéal qui est donné par une partie des Midrashim qui nous montre, sauf Maaseh Bemachashavatrila, une partie des Midrashim nous montre la réussite aboutie, une autre partie des Midrashim nous montre comment cela se passe dans l'effort étape après étape. En particulier, Je voudrais signaler le verset 27, c'est pas le verset 26, que Yehuda ne s'est plus arrêté de la connaître ou qu'il l'a connue une fois et pas plus. Vous voyez, c'est exactement la même catégorie. Dans la première lecture, il a suffi d'une fois et c'est réussi. Dans la deuxième lecture, c'est un effort permanent qui ne s'est jamais arrêté depuis Yehuda et Tamar jusqu'au Mashiach. Et ça continue, que Yehuda connaît Tamar pour faire venir Peretz, David et le Ben David. Je crois que c'est un exemple très, très, très éclairant. C'est deux lectures de Yassa, Lo Yassa. Il n'a pas ajouté ou il n'a pas arrêté.
Le procès était inutile.
Quel procès?
Le procès de Tamar. Si on est de Tamar, il avait bien fauté. Vous savez donc qu'il avait fauté.
Mais justement, on vient de dire qu'elle n'a pas fauté. Écoutez, je vais essayer un peu d'élargir ce thème, et peut-être nous conclurons là. Pendant tout le temps qu'un certain objectif doit être atteint, et l'effort pour atteindre cet objectif, pendant tout ce temps-là, nous sommes en décalage avec cet objectif. Si l'histoire humaine devait être jugée à chaque instant, à chaque contemporanéité, jusqu'à l'aboutissement, elle ne peut être que disqualifiée. Et dans le Midrash, on donne l'image suivante, que j'ai peut-être citée vendredi soir d'ailleurs, je ne sais pas si c'était avec vous. On donne l'image suivante. Quelqu'un a commandé un costume chez un tailleur. Et puis, le tailleur est en train de fabriquer ce costume. Mais cet homme est tellement impatient que de temps en temps, il va voir chez le tailleur où ça en est. Et puis, chaque fois, il est déçu. Comment ? Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Il voit une chose informe et pas un costume. Alors, il faut attendre que l'œuvre soit achevée pour voir de quoi il s'agit. Et si on me livrait mon costume au deuxième jour de la préparation, le tailleur serait en faute, parce que c'est une faute si on s'arrêtait là, et de donner une espèce de brouillon. D'accord ? Tout cela, avant le stade ultime où c'est réussi, tous les stades antérieurs sont en faute. Mais c'est une fois que c'est réussi, alors qu'on voit qu'il ne s'agissait pas de faute, il s'agissait des étapes pour arriver au bout. Là, c'est un peu comme ça que nous pouvons comprendre le proverbe. D'un exil antérieur qu'il n'avait pas connu Joseph. Joseph est né à la fin de l'exil de Jacob chez Laban. Et Yehuda est le porte-parole d'un bilan négatif de ce que peut être l'aventure de l'exil. Et le parti pris et le principe de Yehuda, c'est construire la maison d'Israël en hébreu. Et en renonçant au rêve de Joseph de la construire en relation avec la civilisation extérieure. Alors que le projet de Joseph est un projet qui, c'est là où a été son procès, qui risque de faire disparaître l'Israël hébraïque. En fin de compte, il se dévoile que c'est ce qu'il a risqué, mais il ne l'a pas fait. Alors donc, Joseph sera réintégré lorsque Moïse quittera l'Égypte, il emportera les ossements de Joseph. Et c'est là que se dévoile. Il s'agissait de Joseph et Yosef Hatzadik. Mais tant qu'on voit Yosef agir, c'est un peu l'histoire du tailleur, tant qu'on voit Yosef agir, il est condamnable à mort. Parce qu'il met entre parenthèses l'identité d'Israël hébraïque au profit d'une identité mixte au titre de la civilisation extérieure. Nous reprendrons ça beaucoup plus en détail. Alors, le mot que je ne voulais pas employer, c'est national et diasporique, mais ce n'est pas tellement ça. C'est Israël hébraïque, ça c'est Yehuda, ou Israël dans toutes les langues. Ça, c'est Joseph, qui avait d'ailleurs le don des langues, vous vous rappelez, c'est une racine très grave. Mais nous verrons cela plus en détail demain.
Deuxième bande, fin de la conférence du 20 décembre 1977 consacrée au chapitre 38 de la Genèse, problème de Yehuda et de Tamar.